おかび。
Totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi, votre radio. Le 9 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des archives. Les archives qui constituent, d'après la Déclaration universelle des archives, des sources d'informations fiables pour une gouvernance responsable et transparente dans un État. En marge de cette journée, le débat en RDC est essentiellement relancé sur les systèmes nationaux mis en œuvre pour conserver des archives qui ont de l'intérêt managérial, historique et patrimonial. Quel regard portez-vous sur les systèmes d'archivage des documents d'intérêt public en RDC? Nous en parlons. Vous pouvez participer à cette émission en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net et encore nous appelant au 081 890 63 15. Noëlla Luzitu et Mimi Kindou assurent la réalisation de ces derniers numéros de Parole aux auditeurs de la semaine. Jir Lungembo coordonne et assure la modération de ces débats sous la supervision de Nicole Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages sur notre page Facebook. Nous en tirons quelques échantillons. Innocent, Arma Kondoli, vous avez dit, les archives représentent la mémoire d'un État. Mais dans quel État se trouvent ces archives? Un tour dans les locaux qui les abritent et vous serez édifié sur l'état réel de leur conservation. Jean-Luc Mukutu de Lubumbashi, je pense qu'il faut créer un ministère mis à part qui doit gérer toutes les archives de portée nationale. S'il faut faire un état des lieux, je pense qu'il faudra revoir le système actuel de gestion des archives qui est presque inexistant. Jules Le Panzou, les archives jouent un rôle important dans un pays. C'est une aide mémoire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est buté à un problème, par exemple les chutes économiques, les conflits politiques, etc., etc., qui se sont déjà produits dans les années antérieures, on peut facilement trouver des solutions immédiates à partir des archives. Mais je constate que la majorité des Congolais n'aiment pas du tout lire les archives de son pays et je me demande pourquoi. Patient Kafoula, cette journée n'a pas sa raison d'être et surtout pas d'être célébrée ici en RDC ou encore là où je suis à Manono, car il n'y a ni maison d'édition, ni bibliothèque, ni musée local, encore moins musée de conservation des archives. Odax Rugenda Banga Mulikuza de Bikenge au Maniema, pouvons-nous affirmer avec certitude qu'un système d'archivage des documents RDC préoccupe le gouvernement? Je ne pense pas. Cardinal Nicolas Mabogo Mossilo, depuis Malawi, un bon gouvernement doit se référer aux archives pour lui permettre une bonne gouvernance. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs qui reçoit Guillaume Mwindo, directeur général de l'ISES, Institut supérieur de statistique. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de l'inexistence de l'administration en RDC, d'aucuns pensent déjà à l'inexistence également d'un système d'archivage qui n'existait pas.
Bon, je ne peux pas affirmer de prime abord qu'un système d'archivage n'existe pas. Je pense plutôt que le système existe, mais il n'est pas utilisé de manière idoine pour la planification du développement économique et pour que les peuples et les populations puissent, n'est-ce pas, connaître leur histoire, leur mémoire, leur manière de vivre, leur manière de planifier leur propre vie. En fait, les archives, comme on a dit, certaines personnes l'ont déjà indiqué, c'est la mémoire des nations, c'est la mémoire des peuples. Elle permet à un peuple de connaître son histoire, à une société de connaître ce qui a été écrit sur son passé, ce qui a été fait et ce qui doit se faire, et disposant d'une masse importante et critique d'informations, et ça ne peut être contenu que dans les archives, ça vous permet de mieux planifier l'avenir. Je crois que c'est cela surtout qu'il faudra commencer à utiliser les différentes archives qui existent sur la vie économique, sociale et culturelle de notre nation pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que 54 ans après l'indépendance de notre pays, le pays n'arrive pas à décoller, parce qu'il faut aussi connaître ça. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que les terres doivent comprendre, si vous n'arrivez pas à comprendre la pensée, la culture, l'organisation socio-économique des peuples, il est difficile de planifier leur développement, parce que ne dit-on pas, on ne développe pas, on se développe.
Voilà, donc un peuple sans mémoire, donc c'est un peuple qui n'existait pas, parce qu'il ne saura pas, lire le passé pour préparer l'avenir. C'est très difficile.
Absolument, un peuple sans passé ne peut pas... Parce qu'en fait, les archives, c'est la preuve du passé. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a constitué les points forts, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines culturels, dans tel secteur, et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des échecs. Et maintenant, vous essayez de consolider ce qui constitue des éléments de réussite et faire en sorte que tout ce qui a été élément d'échec puisse être réussi. C'est-à-dire organiser la société de manière à ce que les éléments qui ont été à la base de l'échec puissent être éliminés, et c'est ainsi qu'on crée la prospérité. Alors, si vous ne savez pas faire une lecture idoine de ceux qui ont constitué vos éléments de succès et ceux qui ont constitué vos éléments d'échec, vous allez continuer à tourner en rond. Et le développement ne pourra jamais être construit, ne va pas suivre, et le progrès ne va pas suivre.
Alors, professeur, qu'en dites-vous de ce propos de certains observateurs qui pensent qu'un manque d'un système d'archivage efficace est source parfois de beaucoup de conflits au niveau du peuple?
Tout ce que j'ai fait.
Parce que si on prend les cas, par exemple, des différents conflits fonciers aujourd'hui, parce que vous avez 2-3 propriétaires qui détiennent des documents officiels ou qui se réclament d'être propriétaires d'une terre ou encore d'un terrain, parce que le service des archivages n'a pas bien fait son travail, on n'a pas pu déceler, en fait, les vrais propriétaires par le passé.
Bon, je dois répondre à votre préoccupation en évoquant deux éléments essentiels que les auditeurs peut-être ont l'habitude de ne pas connaître quand nous parlons des archives. Nous avons 4 missions principales des archives. Valeur des preuves de ce qui s'est fait, transmettre les passés, bon usage du passé, et évidemment l'accès aux archives pour son utilisation efficace et efficiente. Alors, maintenant, la question que vous venez d'évoquer, ça concerne la troisième mission essentielle qui est le bon usage du passé. Effectivement, s'il n'y a pas d'écrits, et si ces écrits et ces écrits ne sont pas bien conservés, il est clair que ça génère des conflits. Parce que si vous regardez une actualité, quand nous sommes en train de la traiter, quand nous discutons d'un sujet bien précis, il y aura 10 auditeurs qui vont suivre ce que nous discutons, et chacun va l'interpréter à sa manière. Mais si on doit demander 6 ans, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a été discuté en ces dates d'aujourd'hui, où nous célébrons la date internationale des journées des archives, bon, chacun en donnera une interprétation à sa manière, qui déformera même la réalité qui aura été discutée. Mais si c'était écrit et conservé, alors on saura qu'en date du 9 juin, date de célébration de la journée internationale des archives, on avait discuté de telle matière et voilà les orientations qui étaient données. Effectivement, le fait qu'il n'y a pas des écrits bien conservés, on assiste aujourd'hui que 80% des conflits dans nos tribunaux, ce sont des conflits fonciers. Parce que, effectivement, les titres des propriétés ne sont pas bien conservés. Et c'est comme ça, vous pouvez non seulement voir qu'une même parcelle, on a donné un certificat d'enregistrement ou un titre d'appropriement à deux ou trois, quatre personnes. Alors ça, ça crée effectivement des conflits. Et même l'interprétation de la loi devient très très difficile à cerner. Parce que, par exemple, on vous dit que les certificats d'enregistrement pour une parcelle est inattaquable. Mais inattaquable quand, à partir de quand? C'est à partir du moment où il a été délivré dans des conditions transparentes et à une date précise et ne pas avoir été délivré à plusieurs personnes à la fois. Mais comment un document délivré à 10 personnes sur une même parcelle peut être inattaquable? Bon, alors vous allez voir que même les juges sont désarmés dans ces conditions. Voilà l'intérêt véritable d'organiser des archives pour que même les juges, même les gestionnaires puissent avoir la facilité de gérer ces problèmes concernant les conflits fonciers.
Alors, il y a un auditeur qui a proposé tout à l'heure, vous avez suivi avec nous, que pour les cas de la RDC, il nous faut vraiment un service à part, ou encore un ministère qui va gérer, en fait, la charge de gérer les archives.
Bon, je pense que c'est pas un problème d'avoir un service à part, mais c'est plutôt au sein des différentes administrations organiser un service d'archives fonctionnel et opérationnel, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que les gens perdent. Le temps que vous perdez à rechercher un document, que ce soit dans une entreprise, c'est beaucoup d'argent perdu. Ou bien quand il s'agit des études, quand il s'agit d'une administration publique, beaucoup d'études, par exemple, très intéressantes ont déjà été faites sur la situation sociale, économique, etc. de la RDC. Mais le fait que ces documents ne sont pas bien conservés, ne sont pas bien archivés, ça coûte encore des millions, souvent des dollars au pays. Donc vous voyez que ça constituerait un gain énorme, à la fois pour les entreprises, pour ne pas perdre de temps, en train de travailler sur des choses qui existent déjà. Parce que les problèmes, c'est de ne pas d'inventer la roue, mais de savoir l'utiliser. Alors, donc, vous voyez que si l'information était disponible et accessible à temps réel, on peut éviter de perdre des ressources, on peut éviter le saupoudrage des ressources, qui sont très limitées du reste pour notre pays. Je crois que le problème, ce n'est pas d'avoir vraiment tout un ministère qui s'occupe des archives, mais plutôt d'introduire la culture de la bonne tenue.
Parce que de moins en moins, les entreprises s'intéressent.
Oui.
Vous avez, quand nous scrutons certains organigrammes opérationnels des entreprises ou encore des services de l'État, vous vous rendez compte que les services, les archives, n'est même pas, ou fait, c'est minimisable, quoi.
Mais absolument. Donc, je crois
on considère pas. Il n'y a pas vraiment de considération.
Comme je vous dis, c'est des temps énormes. Il y a un temps, par exemple, je vais vous lister pour vous montrer que le problème, c'est de ne pas avoir un ministère des archives, mais plutôt un service organisé dans les différents services, dans les différentes sociétés. Si vous regardez, par exemple, une société comme la Société Nationale d'Électricité. On va vous dire que y a des laissages à Kinshasa parce qu'il y a étiage sur le fleuve Congo, parce qu'il y a ceci, il y a cela, mais qu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers pour desservir les villes, les pays en énergie électrique, mais c'est essentiellement un problème d'archivage à laquelle cette société est confrontée, parce que quand vous regardez par exemple, nos voisins du Congo, ici en face, ils relèvent les niveaux des eaux du fleuve Congo depuis 1905, et vous avez les statistiques qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir faire des projections et de savoir qu'à tel niveau, à tel moment de l'année, à tel mois, de tel mois, le niveau du fleuve, ça sera à tel niveau, et vous pouvez planifier, n'est-ce pas, la capacité d'énergie à produire, et vous ne serez pas confronté au système de délestage. Et même l'archivage, en ce qui concerne les systèmes de maintenance, un système de renouvellement des équipements, tout ça, si c'était exploité à bon escient, d'ailleurs des ingénieurs français n'est-ce pas apporté une assistance technique à la SNEL l'avait déjà dit, que quand ils seront partis, comme les Congolais n'ont pas la culture de maintenance, n'ont pas la culture de renouvellement d'équipement, de tenir des archives, quand ils seront partis, la SNEL connaîtra des difficultés, des problèmes énormes. Et ce sont ces problèmes-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous comprenez que là, on dit que c'est un problème d'argent. Non, c'est pas un problème d'argent, un problème d'archivage.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous allons ouvrir les débats avec vous, Daniel. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, Daniel.
Bonjour, J.R. Bonjour, le professeur et à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Daniel, vous observez quand même l'administration nationale. Quel regard portez-vous sur les systèmes d'archivage des documents d'intérêt public à RDC?
Oui, J.R., c'est catastrophe de notre pays. Je pense que c'est déplorable. En citant les archives, ça m'a fait d'être en état vraiment dont je ne pourrais pas espérer. Même de notre côté, nous sommes à Kisangani. Nous devons parcourir partout où j'essaie. Je ne sais pas si on trouverait des archives et des archives en caractère juridique parce que tout est mal conservé. Comment on pourrait d'abord arranger les archives au moment où notre gouvernement, c'est comme s'il ne tienne pas compte des filles demain ou le lendemain pourront y en avoir besoin. Et je ne sais pas. Bien suivi l'invité et toutes ces réactions qu'il a proposées. Mais j'ai dit, ici chez nous, il n'y a pas moins des places donc on pourrait trouver des archives. Si nous partons dans des bibliothèques, vous trouverez d'abord l'institution d'abord que les gens de l'État travaillent, qui vraiment délabré. Où est-ce qu'on pourrait vraiment conserver ces archives? On trouverait des archives en caractère qui, le pancréas, sont vraiment en bas. Beaucoup de poussière, donc il n'aura pas même moyen de les consulter. Et ce que l'invité a dit, les archives dont, par exemple, quelqu'un qui était en tête d'une dans son départ, il quittera avec pas moins de documents qu'il pourrait faire à ce qu'il voudra payer, parce qu'il n'y a pas une bonne service qui s'en chargera de ça et de contrôler et de faire à ce que l'état de cette archive soit à une bonne état. C'est ce que je déplore beaucoup. Et ce que je pourrais dire, notre pays, c'est vraiment un désordre, comme je ne sais pas si le pays sont comme ça. L'invité a parlé du Congo Brazza, qui ont des archives qui datent depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas de notre pays. Demain, nous avons cherché un document dans un parquet des grands espaces, ça n'était pas. On a cherché vraiment, on a demandé même les juristes qui étaient là, on n'a pas trouvé.
Et c'était difficile de les tracer. Ouais. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé et d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Germain qui est à Massissi. Bonjour, Germain.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Germain.
Oui. Merci. Moi, je vais aborder ce sujet sur trois points. Le premier point va concerner la production. Deuxième point, c'est l'utilisation. Et troisième point, c'est la conservation. Alors, quand on parle de la production, moi, je me demande d'abord si l'honnêteté de la production des archives. Est-ce que les gens ne gardent pas ces documents parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils produisent? Par rapport à la conservation, vous allez, si on est partout, dans nos bureaux de l'État, vous allez trouver qu'il n'y a pas même des armoires, il n'y a même pas de documents. Donc ce sont des gens qui sont tout simplement là-bas et on se demande si on aura les archives où, dans cette conservation-là. Mais dans cette utilisation, nous avons aussi un problème d'utilisation. Vous allez voir, vous demandez des documents qui datent de 1951-1958, vous ne trouvez même pas ces documents-là. Et ce sont les vieillards qui gardent des petits documents et ils les gardent très mal. À un moment donné, si chez nous, par exemple, vous allez voir, nous sommes dans l'Antiquité où, lorsqu'un vieillard meurt, ou disparaît, c'est toute une
bibliothèque qui est consigne.
Voilà les problématiques que nous avons par rapport à tous ces éléments-là.
Voilà, donc vous avez posé les problèmes au niveau de la production des archives et l'utilisation et puis la conservation. Aujourd'hui, vous avez fait un constat. Lorsque vous faites un tour au niveau de différentes administrations de l'État, vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas d'armoire, il n'y a même pas de bureau. Alors, où doit-on conserver tous ces documents? C'est cela le problème hein, aujourd'hui. Donc, il faut vraiment tout moderniser. Il faut ramener, au fait, l'administration à un niveau un peu moderne pour permettre à ce que les archives puissent être bien gardées. Comme nous l'avons dit en début, d'après la Déclaration universelle des archives, c'est celle-ci constitue en fait des sources d'informations fiables pour une gouvernance responsable et transparente dans un État. Merci beaucoup, Germain. Galvani, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, M. Gérard. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole. Quel regard portez-vous sur les systèmes d'archivage des documents en RDC?
Merci pour la parole. D'abord, d'emblée, je commence d'abord aussi par donner l'importance d'une bonne conservation des archives dans un pays.
Galvani, allez tout droit au but. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, d'abord, concernant d'abord ici précisément Boujimaï, la conservation vraiment pose problème. Parce que les services habilités, d'abord, qui sont prêts pour l'INS, l'Institut National des Statistiques, qui est vraiment habilité de garder ses archives et toutes les statistiques, les données possibles que les gens peuvent avoir besoin, ils se trouvent dans un état très vraiment délabré. Et un jour, je suis parti pour consulter là-bas, il a fallu faire des va-et-vient parce qu'il n'y avait même pas de chaises pour qu'on puisse recevoir une personne. Et aussi, il y a aussi les services de l'État civil qui conservent aussi quelques données et archives, mais malheureusement, ces services-là travaillent dans des conditions vraiment très inhumaines. Il n'y a pas vraiment de bonnes conditions de conservation. Alors, pour vraiment y arriver, on doit d'abord essayer d'informatiser tous ces systèmes-là. Parce que lorsque tous ces systèmes sont informatisés, les données et toutes les archives seront bien conservées sans problème. Et lorsqu'on aura, en cas de besoin,
nous allons essayer de faciliter.
Mais malheureusement, ici, parce que nous aussi, les problèmes d'abord que trouve qui pose à la RDC, c'est que peut-être si on pouvait vraiment voir nos archives d'avant, on peut essayer un peu de développer les pays dans le sens que non, pour voir, on prend les archives d'une période pendant laquelle l'économie de la RDC est vraiment été florissante. Et aussi une étape où l'économie a atteint son déclin. À partir de là, on peut analyser et étudier, faire les mêmes stratégies qui ont été appliquées pendant que l'économie était florissante, et on peut les appliquer aujourd'hui. C'est grâce aux archives que nous pouvons aussi concevoir un développement bien conçu d'un pays aussi.
Voilà, merci beaucoup Galvani. Merci beaucoup Galvani. Là, vous rejoignez notre invité qui parlait tout à l'heure de la troisième fonction des archives, le bon usage du passé. Ça pourrait nous permettre de nous faire une idée très claire sur le passé et permettre à ce qu'on puisse planifier l'avenir. Merci beaucoup Galvani. Victor, vous êtes en Bazangungu. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Victor.
Oui, moi je voudrais parler de deux aspects du problème. D'abord, par rapport à l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement a lancé le projet sur l'agriculture avec des tracteurs et consorts. Et pourtant, il y avait les GER, groupe d'économie rurale et le paysanat. Ils ont pu gérer l'agriculture à cette époque-là. Et c'était une réussite. Malheureusement, je ne sais pas si le service d'archives, par exemple, ayant constaté l'échec qu'on est en train de vivre par rapport à l'agriculture, est-ce qu'il ne peut pas suggérer à notre gouvernement de pouvoir se référer à ce qui avait été réalisé à l'époque de GER et de paysanat. GER, c'était groupe d'économie rurale. La deuxième, c'est par rapport aux différents problèmes que nous avons pour les frontières avec l'Angola, par exemple, ou au niveau de l'océan et avec tout ce qu'il y a comme richesse, le pétrole, on a eu des conflits terribles avec l'Angola et même au niveau des Kayemba, en fait vers Kayemba de l'autre côté.
On a eu
des conflits et on devait consulter les archives de la Belgique. Est-ce qu'à l'indépendance, on n'a pas pu demander le transfert de ces archives? Est-ce que maintenant on peut le faire? J'ai eu l'occasion de visiter Terburen en Belgique, où j'ai regardé ces histoires de frontières et les différents accords signés. Et pourtant, on ne trouve pas ces archives ici. Est-ce qu'on peut aujourd'hui demander le transfert de ces archives au pays? Pour le reste, je pense que si on veut vraiment aller de l'avant, il faut qu'on organise les choses, surtout au niveau de la base,
parce qu'un
pays sans archives, comme il le disait, c'est pratiquement un pays sans identité. Merci.
Victor, s'il vous plaît, ne quittez pas encore la ligne. On peut peut-être vous relancer avec une question. Il y a tout à l'heure un auditeur qui a évoqué l'état dans lequel se trouvent les bureaux administratifs, aujourd'hui les services administratifs, qui n'ont pas de chaises, qui n'ont pas d'armoires. Est-ce que vous pensez qu'on peut bien organiser les systèmes national d'archivage?
Non, mais ça c'est clair. Dans ces conditions-là, on ne peut rien faire. Et là, c'est le problème de la gouvernance. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des archives vu cet état de choses. Et là, ça doit nous interpeller tous. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bureau de l'État, pour qu'un secteur ou bien un territoire puisse réellement être territoire, comme à l'époque, excusez-moi, j'ai pas vécu à l'époque coloniale, mais comme à l'époque coloniale, puisque le vieux le dit qu'il y avait des archives à ce moment-là, et on les a trouvées. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est même la gestion du pays, les gens diront c'est politique. Oui, mais tout est politique. Quelle est la politique d'archives dans notre pays? Quelle est la politique d'enseignants dans notre pays? C'est politique. Comment nous gérons notre politique? Comment nous gouvernons pour que réellement le pays soit géré comme pays? Et ça, malheureusement, dans notre pays, les gens n'y songent pas. On parle élection, on parle développement, et sans identité. Donc, on ne peut pas évoluer dans ce sens-là, malheureusement, et c'est ce que nous vivons, et c'est ce que nous continuons à vivre maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des archives qu'on est en train de garder
sur
dans un secteur donné, dans un territoire donné? Non. Non.
Merci beaucoup Victor d'avoir appelé de Mbanzangungu 081 890 63 15 pour participer en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Monsieur Guillaume Mouindo, nous avons suivi les auditeurs tout à l'heure. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à leurs interventions?
Bon, je me réjouis que les auditeurs aient touché du doigt les réalités profondes à la base des problèmes et des défis énormes auxquels notre pays se trouve confronté. Vous voyez, un monsieur a parlé des problèmes avec l'Angola, des frontières avec Kaemba, tout ça. En fait, il y a l'institut géographique du Congo. Si les archives de cette institution étaient très bien tenues, normalement, on devait avoir toute la cartographie concernant tous nos territoires, les frontières avec nos 9 voisins. Et donc, voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que c'est pas la peine d'avoir un ministère des archives, mais plutôt
au niveau de chaque secteur,
indiquer dans chaque secteur l'intérêt d'organiser des services vitaux qui porte sur le développement du pays. Ils ont parlé d'un groupe d'économie rurale qui existait. Effectivement, à l'époque coloniale, on avait dans chaque territoire des statistiques sur la production agricole, sur les moyens de production, sur les types de maladies qui attaquent les plantes. Et tout ça, c'était documenté, et ces documents étaient disponibles au sein de chaque territoire, chaque quartier, et même les niveaux des populations, c'est-à-dire les gens qui naissent, les gens qui meurent, les gens qui arrivent, tout ça c'était documenté. Et vous voyez que si ces services étaient encore opérationnels aujourd'hui, bon, nous n'aurions pas de problème aujourd'hui pour l'organisation des recensements, pour l'organisation des élections, puisque chaque territoire, chaque quartier aurait donné des chiffres actualisés sur les flux des populations, c'est-à-dire les mouvements, les naissances, les décès et d'arrivées. Évidemment, il faut informatiser, je suis d'accord, mais informatiser quoi quand rien n'existe. Donc, ce que nous suggérons, c'est que d'abord, au niveau des autorités, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau des entités décentralisées, qu'ils prennent conscience que le développement d'un pays passe nécessairement par l'organisation des archives qui renseignent sur tous les mouvements économiques, sociaux et culturels au sein de chaque entité. Et quand ces informations sont bien renseignées, sont bien archivées, ensuite on peut envisager un support informatique pour une meilleure conservation. Mais d'abord, il faut que ça se fasse, il faut que ça existe. Donc je crois que ce sont des choses très vitaux. Je crois que les messieurs à taper juste aussi, les politiques ne voient pas ces aspects de choses. Et donc, beaucoup de politiques sont en train de faire de la démagogie parce qu'ils ne parlent pas des vrais problèmes qui concernent le développement du pays.
Oui.
Et c'est là où je crois qu'il est important maintenant qu'on revienne à la base, parce que même nos députés, si vous leur demandez aujourd'hui combien de gens il y a dans son village, dans son entité, il ne saura rien.
Il
y a combien de jeunes, combien de vieux, comment les structures de base fonctionnent.
Parce qu'il n'y a pas de statistiques.
Il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien. Et tout ça, ce sont des archives qu'il faut bien conserver, il faut bien organiser.
Voilà, il y a un auditeur qui nous a même fait rire en disant que effectivement les problèmes des archives est allé quelque part pour demander en fait dans une école pour retracer un peu son parcours scolaire. On lui dirait que les palmarès n'existaient plus, donc on a tout détruit. Voilà, donc partout il y a des problèmes. On va encore repasser de l'autre côté du standard pour prendre quelques auditeurs, pour revenir aussi à vous, monsieur le professeur, pour savoir un peu aujourd'hui quels sont les écoles qui organisent quand même la formation des archives, parce que bon, pour certaines entreprises, pour punir par exemple quelqu'un, on l'envoie au service des archives, pour dire que, ben voilà, on vous met dans les garages. Joseph est à Bukavu. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour, monsieur, de m'avoir accordé la parole, mais aussi je salue l'invité en passant. Et je voulais ajouter quelque chose pour tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Puisque on dit à la tête que Werva Hollande est script à Manent, et que donc les paroles s'envolent, mais les
écrits.
Alors, de ce qui se passe au pays, bon, c'est déplorable, et on dirait qu'il y a encore le temps de se retrouver, puisque les archives, vraiment, c'est la richesse d'un pays quelconque, y compris les provinces. Au Congo, il y a des problèmes, puisque nous n'avons pas d'archives au sein des universités, au sein de l'école, et c'est la cause des problèmes. Je voulais me pencher sur le patrimoine de l'État. Aujourd'hui, c'est déplorable, puisque vous voyez n'importe qui et qui dame se réveille du matin et fait ce qu'il fait faire au pays. Puisqu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de ressources où se référer. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, l'État n'a absolument rien, puisque les archives ne sont pas là. Et si on part, disons, aller se plaindre, et n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut, puisque nous n'avons pas ces archives. Alors, comment ces archives doivent être retrouvées, on ne sait pas. Et nous autres, de la nouvelle génération, et on s'improvise.
Vous avez perdu
l'air, puisque nous n'avons pas même ces ressources pareilles. Alors, moi, je voulais proposer à l'invité, mais aussi faire une suggestion. On devrait commencer à montrer ça aux futurs cadres, qui sont les étudiants. Puisque si nous partons faire des stages dans des différents bureaux ici dans la province, vous voyez qu'il n'y a absolument rien, ce sont les vieux papas qui se retrouvent là, il n'y a pas même des archives, alors on va faire quoi? Vous voyez que le pays s'engouffre puisque nous n'avons pas assez de ressources. Le patrimoine de l'État est, disons, est pris par n'importe qui, puisqu'il n'y a pas de suivi. Vous allez faire des suivis au moment où vous n'avez pas de ressources.
Voilà, merci beaucoup, donc, Joseph. Merci, moi, Joseph, si je comprends bien.
Allô?
Il y a pas mal de problèmes, de spoliation des biens de l'État, faute de ces systèmes efficaces d'archivage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a même suivi l'actualité, tout récemment, avec le service de l'urbanisme et habitat. Plusieurs maisons et immeubles de l'État ont été spoliés, même vendus par certains responsables, dans la mesure où il n'y avait pas de documents, on ne sait pas tracer si réellement c'est cette maison qui, en fait, était ce domaine de l'État depuis l'époque coloniale, aujourd'hui spoliée. Merci beaucoup. Nous prenons Maurice qui est à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Gérard Bungembo.
Vous avez la parole, Maurice.
Gérard, vraiment merci à la Radio Capi. Je crois qu'il faut être vraiment Radio Capi pour parler de ces sujets. Parce que vous pouvez observer dans les médias, laisser la place. Vous n'allez pas voir un seul média qui prend son temps, qui consacre son temps, même le minimum de son temps, pour parler des archives. Et là, des notes, au fait, de la place qui est réservée à la conservation, à la valeur même d'abord des archives dans ce pays. Vous savez, la fois passée, j'étais trahi par la charge de mon téléphone.
Tout à fait.
Le sujet des sommets, là, plutôt de
la commission mixte, oui.
De Brazzaville-Congo. Je voulais dire que un pays ne se mesure pas à travers les potentialités qu'il regorge. On ne respecte pas un pays parce qu'il est riche potentiellement. Non. On respecte un pays à travers, d'abord même, l'organisation administrative. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Belgique, la Belgique a quoi comme ressources naturelles? Mais la Belgique est respectée à travers le monde, c'est par rapport à son administration. Nous avions vu dans ces pays-là, la Belgique, pendant, je crois, plus de 2 ans, il y avait crise, il n'y avait pas de gouvernement, mais l'administration a tenu la gouvernance de l'État très très bien. Alors, ici, dans le pays, ici, lorsqu'on parle des archives, on doit d'abord se demander, se poser des questions, comment sont traités des archivistes dans ce pays? Comment sont conservés, dans quelles conditions sont conservées les archives? Vous allez parcourir les différentes administrations de l'État. Vous allez voir que les archives sont abandonnées, à même le sol, il y a même des insectes qui les consument. Et d'autres, vous allez comprendre qu'ils sont abandonnés dans des endroits où, parce que certains auditeurs l'ont dit, vous allez voir que certains bureaux, il y a des bureaux où ça suinte, la pluie qui coule, et ça coule sur les archives, et c'est abandonné, il n'y a personne qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que le pays ne donne pas même, plutôt n'accorde pas un intérêt sur les archives. Alors, il faut parler même de la manière, pourquoi, pour des raisons, quelles sont les raisons qui animent, par exemple, les gouvernants à négliger, par exemple, les archives. Vous allez comprendre, il y a, je crois, 1 année ou 2 ans qu'on avait suspendu le pays ici à Litier. Qu'est-ce qui l'était reproché? C'est l'absence de la traçabilité. Lorsqu'on parle déjà de la traçabilité, donc on fait déjà allusion aux documents, aux preuves. Les gens qui payent, les assujettis qui payent en bonne et due forme, dûment leur redevance. Et on vérifie à la banque, il n'y a rien qui est arrivé. Tout ça, c'est par rapport à la traçabilité. Pourquoi? Parce qu'on étouffe. On étouffe les traces. Donc il faut éliminer les traces pour que ceux qui viendront un jour, les régimes, soit qui viendra, ne puissent pas
avoir des
trouver des traces pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Vous comprenez? C'est le même problème qu'on a aujourd'hui au niveau, par exemple, de scrutin de 2011. Aujourd'hui, s'il y a problème, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas brandir de preuves. Qui a gagné les élections? Il n'y a pas de preuves. Vous avez vu des lots de bulletins amassés, abandonnés à la Fikine et emportés par la pluie. Alors, on dit non, c'était la pluie, et on ne sait pas comment on en fait maintenant pour compenser à cette situation. Donc, c'est une manière de démontrer que ce pays ici est en train d'être géré comme la jungle, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans la jungle, lorsqu'on animal travaille, il n'a pas besoin de conserver quelque chose.
Vous connaissez quand même le principe de l'émission, il y a quand même des propos très courtois. Hein, je crois que, bon, nous avons parlé des archives, vous avez, comme vos prédécesseurs, reconnu qu'il n'y a pas un système d'administration efficace pour, au fait, conserver les documents et permettre aux générations futures d'en faire bon usage, quoi.
Mais ça, en fait, c'est ça, en fait. Dans les pays responsables, même dans certains pays, vous allez comprendre que ceux qui gèrent aujourd'hui tiennent compte de ceux qui vont venir, des générations à venir, raison pour laquelle vous allez voir dans certaines banques, dans les pays respectueux, dans les pays normaux, des pays sérieux, il y a des comptes des générations futures. Donc il y a de l'argent, et en termes même des milliards dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique, qui sont gardés pour les générations futures parce qu'on suppose que ces gens-là viendront demander des comptes à ceux qui ont géré les pays avant eux.
Parce que
les richesses appartiennent à tout le monde.
Merci Maurice, nous comprenons bien. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre participation en direct. On va prendre d'abord Michel qui est à Kalemi et on va terminer cette série avec Dr Richard qui est à Kinshasa et on reviendra à vous, Monsieur Guillaume Moindo, directeur général de l'ISES, l'Institut supérieur des statistiques, qui organise d'ailleurs, une formation, hein, sur les archives. On va revenir et puis d'ailleurs en parler. Michel, vous êtes à Kalemi, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour aussi à notre invité. Ah.
Michel, quel regard...
Je voulais vraiment parler, oui, sur...
Les archives.
Débattre sur le même article qu'a parlé mon...
Maurice, oui.
Mon invité a parlé sur le problème des limites territoriales dans ce qui concerne les frontières de la RDC avec d'autres pays. Hier, c'est un problème très sérieux avec notre gouvernement, parce qu'on ne sait même pas d'où nous venons et d'où nous allons. Quand mon prédécesseur là a parlé des limites et de frontières, mais hier, il y a un problème sérieux avec des limites territoriaux. Je peux vous donner un exemple. Je suis à Kalemi, mais moi, je suis un Kassaïen. Il y a eu des problèmes très sérieux au Kassaï avec des tribus. Quand vous parlez, je crois que vous avez été avec des informés des années passées, les Benan Chimbe, les Benan Kapoué. Ces tribus-là se disputent sur les limites des frontières. Et vous voyez que le gouvernement provincial est là, il ne sait même pas trancher ces gens-là hier. Il ne sait même pas venir à cause des manques
d'informations.
Ils ne savent même pas où limiter tel territoire ou telle tribu. Ouais. Les gens se sont entretués, déjà, on a perdu beaucoup de gens qui se sont entretués parce que ce territoire-là avait des gisements de ciment et que les gens pensaient à ce que quand on va installer des usines de ciment, telle tribu et telle autre va en profiter. Mais le gouvernement, où est-ce qu'il était?
Donc il n'a pas
le gouvernement provincial, il était là à venir parler de choses, oh non, on ne sait pas. Vous allez séparer les gens, alors il faut leur monter les limites. Si à celui-ci, non, votre territoire se limite par ici et par là, vous tranchez. Mais les gens se sont entretués sérieusement. Hier, nous avons un problème sérieux. Quand je me demande aussi, quand le temps parle de problème de décentralisation, est-ce que l'État a déjà bien tracé les cartes des territoires, les territoires qui séparent le village, qui séparent le secteur, tout ça pour savoir telle province s'arrête par ici, telle autre commence par là, les territoires, les districts qui deviendront des provinces, et des provinces qui deviendront peut-être des territoires qui deviendront des districts. On ne connaît rien. Parce qu'on n'a pas des archives.
Alors il faut toujours se référer aux archives.
Les États sont en train de proclamer la décentralisation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis
sans archives.
Se demande ici à Kalemi, on aura combien de communes, où est-ce que sera telle commune, où va s'intalimiter, où va commencer ton
truc. Voilà, merci Michel.
On a un problème très sérieux avec le problème d'archivage territorial.
Merci beaucoup Michel. C'est comme vos prédécesseurs, vous reconnaissez que les archives constituent quand même des sources d'informations fiables pour une gouvernance responsable et transparente dans un État. Merci beaucoup. Docteur Richard, on termine avec vous avant de revenir et de redonner la parole à notre invité. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs qui ont parlé et félicitations à tous ces citoyens congolais. Et puis bonjour à notre invité. Alors voilà ma modeste contribution pour cette émission. Je crois, avant de jeter la pierre sur l'État, il faudrait que... Allô ?
On vous suit, docteur Richard.
Ok, il faudrait que on s'examine soi-même. Pourquoi je dis ça? Je crois que le problème des archives doivent être, donc ces problèmes-là, doivent être d'abord un problème du citoyen. Au départ du citoyen, l'État peut investir là-dedans. Pourquoi je dis ça? Je crois que les archives doivent être constituées à partir de nos familles. Il faut que l'État encourage ça. Pourquoi je dis ça? J'ai suivi sur TV5, on nous dira que les premières élections démocratiques au Congo, c'était organisé en 2006. Alors je pose la question à celui-là. Sylvestre Moudingaï, qui était président du Sénat, était élu comment? Il est au Songo Amba, était élu comment comme sénateur? Et puis Ivo Kimpiondi, par exemple, les noms que nous connaissons, était élu comment? Voilà. Ça aussi, celui qui a dit comme ça n'a pas consulté les archives. Les archives doivent partir des familles, mais qu'est-ce que nous voyons chez nous? Lorsque quelqu'un décède, on brûle tout, même son bulletin. On brûle tout. Quand on pose la question à ceux qui sont entrés dans l'histoire à partir des noms célèbres comme Kassavubu, on demande les archives de Kassavubu. La famille ne peut pas brandir ça, il n'y en a plus. Quand on demande les archives de Lumumba, Même les chaussures, les dernières chaussures, on ne les verra pas. J'étais en échange d'informations, donc j'étais invité par nos amis qui sont à la première, à l'avenue de la justice, chez le professeur Lunenga Metsa, pour échanger avec eux. C'était au niveau de la bibliothèque de la première rue à Limité. Je leur avais dit que quand vous parlez de pays émergents, que nous aurons des bus électriques ici, j'ai dit, mais moi je suis monté dans les bus électriques ici au Congo, à Kinshasa. Voilà. Et ils m'ont pris comme assive par, qui parle. Je leur ai indiqué même des poteaux qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui montrent que ces poteaux fournissaient le courant au niveau des bus. Mais quand vous allez à l'OTCC, maintenant c'est une grande boulangerie, les archives sont parties où? Le OTCC Cabinda. Il n'y en a plus.
Bon, c'est devenu une boulangerie actuellement. Et c'est une société de panification aujourd'hui.
Pardon?
C'est une société de panification aujourd'hui.
Mais justement, où sont les archives? Là où les bus en shell étaient archivés dans les documents, et là où on savait que ces bus prenaient le courant. Et j'ai même indiqué à tel endroit, vous allez voir le poteau qui est là. Donc, croisement Wakadingi, avenue Président Kassavubu, c'est à ce croisement-là, le dos tourné sur le boulevard, vers le boulevard du 30 juin, il y a un poteau avec un bras sombre, un poteau verdâtre pâle, avec un bras sombre, c'est ça, le poteau qui donnait le courant. Il y a même dans les archives de l'université Lovanium, il y avait des tests pour voir si le moteur à mazout pouvait rouler ou fonctionner avec les huiles de palme. J'ai accédé à ces archives. Mais maintenant, ceux qui étudient aujourd'hui, qui parlent des
biocarburants,
ils savent qu'avant l'indépendance, nous avons testé ça. C'est ça les archives. C'est-à-dire une culture nationale basée sur la conservation de l'information dans les documents. Mais comme nous sommes de la culture de l'oralité, mais comment on peut garder les archives? C'est
voilà,
ça le problème.
Docteur Richard, merci beaucoup. Merci.
Merci.
Merci d'avoir contribué à cette émission. Professeur Guillaume Mouindo, vous êtes directeur général de l'ISES, Institut supérieur des statistiques. Comment vous réagissez par rapport à cette deuxième série et des auditeurs?
Bon, merci beaucoup. Je crois que par rapport à la deuxième série, j'apprécie d'abord le fait que l'émission ait suscité des réactions très très intéressantes sur la nécessité d'avoir une culture des archives. Parce que si, comme je l'avais dit, s'il n'y a pas de culture des archives, vous ne pouvez pas savoir d'où vous venez, où vous allez. Donc j'avais déjà insisté sur cet aspect. Et même chaque citoyen devait être interpellé dans l'administration qu'il travaille s'il avait déjà cette culture archivistique. Il devait se demander pourquoi est-ce que les générations actuelles ne sont pas renseignées sur ce qui s'est passé au niveau de notre pays, que ce soit au niveau de gestion du patrimoine. Bon, effectivement, on a vu les ministres des ITPR en train de dire que l'État a perdu beaucoup de son patrimoine. Bon, c'est un secret des polichinelles. On sait par exemple que la commune de la Gombe, 80% des immeubles, c'était des immeubles de l'État. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Ce sont des particuliers. Bon, alors, qui a intérêt à faire disparaître ce patrimoine national et qu'est-ce que vous laissez aux générations futures? En fait, quand vous regardez les pays développés et les pays émergents, c'est ça les plus grands problèmes. Ils se sont toujours référés au plus grand commandement biblique, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et ça, concrètement, ça signifie quoi? En des termes très simples, nous devons nous assurer, nous les citoyens d'aujourd'hui, que nous assurons le même niveau de bien-être aux générations présentes et futures. C'est-à-dire, on n'offre pas aux générations futures moins que ce que les générations futures ont maintenant. Mais le fait, effectivement, que nous n'avons pas respecté cette façon de voir, fait aujourd'hui que les Congolais moyens d'aujourd'hui vivent 5 fois moins bien que les Congolais de 1960.
Alors, professeur, aujourd'hui,
donc, c'est cette culture-là de ne pas comprendre qu'on a mis au point des recherches scientifiques qui permettent, par exemple, qu'un moteur à mazout puisse fonctionner avec un moteur d'huile de palme. On sait qu'il y avait des bus électriques à Kinshasa, tout et tout. Et ce sont ces expériences, j'avais dit, on ne réinvente pas la roue. Ce sont ces expériences
qui étaient bien
conservées, bien archivées, qui devaient servir aujourd'hui.
On allait se référer
à ça pour faire de nouvelles choses, pour créer de nouvelles idées.
Voilà,
alors, ici, c'est, on a une culture de... De l'oubli. Et une culture de l'oralité, un des auteurs l'a dit. Bon, s'agissant par exemple de la délimitation territoriale à l'intérieur du pays, parce que nous avons parlé de la délimitation territoriale
des frontières avec
nos voisins, mais à l'intérieur du pays, le pays a organisé un recensement scientifique de la population en 84. C'est une mine d'informations importante qui délimitait les villages, les territoires, les quartiers et les nombres de populations qui étaient à l'intérieur. Il y avait une cartographie importante qui a été faite du territoire. Mais malheureusement, ces choses sont en train de moisir dans les bureaux de l'Institut national de la statistique. C'est un patrimoine qu'on ne veut même pas sauver. Alors si on les sauve, ça va servir beaucoup au pays. Donc je crois que c'est ça. Il faut que les dirigeants, les citoyens ordinaires, tous prennent conscience que sans archives, on ne peut rien faire. Ça sera un éternel recommencement.
Alors, je me pose la question, professeur. Aujourd'hui, est-ce que, au niveau de votre institut, est-ce que vous avez vraiment des étudiants? Il y a un engouement vers la section, la filière des archives?
Ben, nous sommes heureux de vous dire que nous sommes les pionniers d'abord des formations de cadres dans ces domaines-là. Notre institut forme les archivistes depuis 1977. Donc ça fait déjà plus de... Aujourd'hui, nous sommes presque à la 35e année où nous sommes en train de former des archivistes. Et donc...
C'est un établissement public?
Cet établissement a commencé comme établissement privé en 65, mais il a été étatisé en 2002. Donc, c'est un établissement public depuis 2002. Et donc, nous formons suffisamment d'archivistes. Et c'est question que l'État, maintenant, puisse les utiliser à bon escient. Pas seulement l'État, mais aussi les entreprises. Comme vous l'avez senti, on ne peut rien, on ne peut pas construire le progrès si on ne s'appuie pas sur les archives. Bon, maintenant, l'Institut, effectivement, dispose aussi de l'expertise pour donner un embryon des fonctionnements des services d'archives
dans les entreprises
et dans nos 245 territoires de la RDC, puisque ça doit commencer par là. Il faut commencer à organiser tous les documents, que ça soit en rapport avec les limites des territoires, que ça soit avec les limites des villages, inventorier les patrimoines qui existent là. Bon, mieux vaut partir à zéro, reconstituer tout ça. Bon, je vois, ce sont les Belges, on a parlé des Belges. Ce sont les Belges qui sont en train de faire des études, n'est-ce pas, pour reconstituer toute l'histoire de notre pays. Pourquoi nous-mêmes on ne peut pas les faire
alors que
nous disposons de l'expertise nécessaire pour faire ça?
Ils essaient qu'à Kinshasa ou à travers le pays aussi?
Malheureusement, c'est seulement à Kinshasa, mais le fait d'être à Kinshasa, ce n'est pas une limitation. On peut se déployer. Nos experts peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des entreprises pour essayer effectivement de mettre en place ces systèmes d'archivage dont on vient de voir, et vous avez vu même à travers les auditeurs que c'est quand même un élément important, si pas indispensable, si nous voulons construire le développement économique et social.
Alors, on va prendre professeur Émilie Zola, voilà, alors qui nous a rejoint, il est de l'Inulu. Rapidement, on va lui accorder la parole. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, rapidement, vous avez une minute, malheureusement, parce qu'on a plus assez de temps.
Je vous remercie de m'accorder la parole. C'est un sujet très, très, très important. Moi, je suis de la faculté des lettres et sciences humaines, département des sciences historiques, où pratiquement il y a un cours en rapport avec la
gestion des archives.
Et là, on démontre énormément l'importance des archives. Effectivement, ceux qui ont parlé à ce moment ont fait raison. Nous n'avons pas de raison de détruire les archives. Et je suis contre ceux-là qui détruisent les archives après 50 ans, etc. Je venais de vivre une expérience. C'est quoi?
j'ai soutenu ma thèse de doctorat et cette thèse a porté sur la période coloniale. Et j'ai eu énormément de difficultés parce qu'il n'y avait pas d'archives. Je devais me rendre en Belgique et là, les choses semblent être organisées, comme l'a dit le professeur. Mais moi, je pense qu'il y a lieu d'organiser des forums, des séances de sensibilisation dans les écoles, un peu partout, pour que les gens comprennent le bien fondé de la chose. Et en Belgique, en 2010, j'ai eu à prendre part à la journée de l'histoire orale en Belgique. Et j'ai compris que là, les débats avaient tourné autour des archives et même des récits de certaines personnes qui ont vécu pendant la Deuxième Guerre, etc. Donc c'est très important, c'est pour appuyer seulement ce que mes prédécesseurs ont dit.
Et les professeurs.
Et il y a lieu de sensibiliser tout le monde, et même les enfants dans les écoles, pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé il y a longtemps, et ça va vraiment aider à nous aider tous à aller
pour l'avenir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Émilie Zola, de l'Université de Lubumbashi, de nous avoir rejoint dans cette émission. En tout cas, en dernière minute, on aurait bien souhaité vous accorder plus de temps pour réfléchir ensemble avec nous. Mais voilà, on revient à vous, professeur. Je crois qu'on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Et aujourd'hui, c'est vrai, est-ce qu'il y a des conditions pour suivre le cours d'archivage, pardon, des archives, hein, la filière d'archives à l'ISES?
Bon, c'est qu'on peut conclure, je suis heureux de constater que l'émission a suscité beaucoup de débats et surtout de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que les archives, la construction des archives, c'est très très important pour le développement d'un pays et qu'un noyau de construction des archives devrait rapidement se mettre en place. Les enseignements à l'Institut de statistiques, nous les organisons des gradués en archives, des licenciés en archives, et même nous pouvons faire pour ceux qui le veulent des cours pour quelques mois, juste pour les ramener à les accompagner, à organiser les archives, parce que, comme je l'ai dit, la professeure qui a parlé après moi ici l'a bien dit. Si nous voulons faire quelque chose, on ne doit pas toujours aller en Belgique. Il est grand temps que nous-mêmes, parce que l'expertise est au pays, que nous commencions à organiser les archives sur toute la vie sociale, économique et culturelle de notre nation, condition sine qua non du développement et du progrès. Merci.
Professeur Guillaume Mouindo, directeur général de l'ISES, Institut supérieur des statistiques, merci d'avoir été de nôtre et à très bientôt.
Merci.
Merci également à vous tous qui avez participé à ces débats. Nous prenons rendez-vous lundi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien.